Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'État va créer à Calais un sas de mise à l'abri. Objectif, accueillir temporairement 300 migrants la nuit avant de les rediriger vers des hébergements pérennes. Gros plan dans votre journal sur la situation à Calais où des militants associatifs protestent contre les démantèlements de campements de migrants avec Pierre Henry, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche dans des embarcations. 292 migrants ont été secourus et ramenés sur la côte française. Hier. La branche afghane du groupe État islamique revendique l'attaque contre l'hôpital militaire national de Kaboul. L'attaque terroriste hier a fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Parmi les personnes tuées, un haut responsable taliban. Une nouvelle hausse des prix des carburants au Liban, cela parallèlement à une augmentation des cours mondiales du pétrole. Coup de projecteur dans votre édition sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, en marche vers une Afrique résiliente, le thème de la deuxième édition du Global Women Summit. Elle débutera ce jeudi à Dakhla, dans le sud du Maroc. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain. Il proposera aux jeunes de moins de 25 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois. Nous y reviendrons avec la vice-présidente du syndicat étudiant UNEF, Iman Weladj. L'invité de Pluriel ce mercredi à 19h et 23h est Frédéric Descrozaille, député La République En Marche du Val-de-Marne. Sur la question de l'emploi, Loïc Barrière lui a demandé pourquoi dans le secteur de la restauration il y avait toujours des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Sa réponse dans votre journal. Le prix Goncourt 2021 décerné à Mohamed Bouguersart pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes » aux éditions Philippe Rey. L'État va créer à Calais un sas de mise à l'abri. Il s'agit d'accueillir temporairement 300 migrants la nuit avant de les rediriger vers des hébergements pérennes. Une annonce ce mercredi du médiateur gouvernemental chargé de négocier avec trois militants associatifs en grève de la faim. Ces militants qui protestent contre les démantèlements de campements de migrants. Sur cette situation à Calais, Pierre Henry, président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, ex-directeur général de France Terre d'Asile.
La revendication des grévistes de la faim, c'est de dire qu'il faut que les personnes restent sur Calais, qu'elles cessent d'être délogées par les forces de l'ordre. Or, l'État n'acceptera jamais la reconstitution de ce que l'on a appelé une jungle, un campement immense de 10 000 personnes. Et des propositions ont été formulées, notamment par le médiateur nommé par le gouvernement, Didier Lesky, et notamment celle d'un hébergement systématique pour toute personne migrante qui se trouverait à Calais. Simplement, l'engagement, c'est que cet hébergement se trouvera dans les Hauts-de-France, mais pas à Calais. Je crois que cette proposition, il faut la saisir au bon. C'est une avancée énorme et qui d'ailleurs aurait dû être appliquée depuis le début.
Pierre Henry, président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, ex-directeur général de France Terre d'Asile. Il tentait de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche dans des embarcations. 292 migrants ont été secourus et ramenés sur la côte française hier. Une annonce aujourd'hui de la préfecture de la Manche. Une nouvelle hausse des prix des carburants au Liban. Cela parallèlement à une augmentation du cours mondial du pétrole. Selon le nouveau tarif publié par le ministère de l'Énergie, le prix des 20 litres d'essence à 95 octanes a augmenté de 7800 livres libanaises, cela dans un contexte de crise socio-économique particulièrement grave au Liban. La branche afghane du groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre l'hôpital militaire national de Kaboul. L'attaque terroriste hier a fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Le groupe rival des talibans a affirmé avoir mené une attaque coordonnée impliquant 5 assaillants. L'un a activé une ceinture explosive à l'entrée de l'hôpital, puis des hommes armés ont pénétré dans l'établissement. Parmi les personnes tuées, un haut responsable taliban, le chef des forces militaires talibanes à Kaboul. Le premier ministre soudanais déchu, Abdallah Hamdok, réaffirme ses exigences d'un retour à la situation prévalente avant le coup d'état militaire. Il demande aussi la libération des prisonniers politiques, un préalable avant d'engager un dialogue de sortie de crise avec les putschistes. Abdallah Hamdok est placé en résidence surveillée depuis le coup d'état du 25 octobre. La deuxième édition du Global Women Summit, elle débutera ce jeudi à Dakhla, dans le sud du Maroc. Le thème de cette édition, du 4 au 6 novembre, en marche vers une Afrique résiliente. Objectif, aborder les solutions concrètes pour donner aux femmes les moyens de stimuler la croissance économique du continent africain. Initiée par la fondation Startup Grow, sous la présidence d'honneur de la princesse Lala Meriem, l'événement réunira des décideurs, des experts et des acteurs nationaux et internationaux. La fondatrice du salon, Anan Ait Aïssa.
On a voulu initier ce rendez-vous parce qu'on a été confronté à un certain nombre de constats ici au Maroc. Aussi, c'est quelque chose qui a été confirmé partout dans le continent africain. C'est que beaucoup de difficultés pour la femme, pour son épanouissement, son autonomisation et surtout l'accès à l'acte d'entreprendre. Et la mise en place de ce rendez-vous, c'est pour permettre la sensibilisation surtout et la vulgarisation de l'importance de l'inclusion numérique de la femme, de son autonomisation pour le développement de l'Afrique et de son économie.
Vous estimez qu'il est urgent aujourd'hui de repenser les politiques économiques des pays africains et qu'ils doivent davantage tenir compte du rôle des femmes dans l'accomplissement des projets?
Absolument. Nous sommes actuellement dans une phase post-Covid-19, une crise sanitaire qui a vraiment aggravé la situation des femmes surtout, parce que il constitue la composante qui a été très touchée par l'impact négatif du Covid-19. Et on s'est dit, dans un monde qui est différent, dans ce contexte new normal, c'est bien de prendre un moment et de repenser un petit peu l'économie africaine, de repenser la gouvernance africaine aussi, en ayant plus d'inclusion des femmes dans des postes de responsabilité, dans les comités de direction, permettre la diversité genre au sein des entreprises et surtout permettre l'autonomisation des femmes. Il y a des études qui ont été réalisées dernièrement qui ont démontré que les entreprises avec un comité de direction où il y a une présence de femmes, ces entreprises, ils ont fait des chiffres d'affaires plus importants. Ce sont des entreprises qui sont plus performantes, plus créatives et surtout où il y a beaucoup d'innovation. Partant de ce constat-là, ceci va vraiment donner à l'Afrique et à l'économie africaine la possibilité de prendre une nouvelle dynamique et avoir une nouvelle vision.
Comment l'expliquez-vous, le fait que les femmes ont été davantage touchées par cette crise internationale liée à la Covid-19?
Les femmes constituent vraiment la partie la plus touchée. Parce que la femme, il doit rester à la maison pour s'occuper de la famille, s'occuper des enfants. Donc, c'est un effet culturel, premièrement. Donc, les métiers qui ont été touchés principalement par la crise sanitaire, ce sont les métiers où il y a une grande présence de la femme. Et aussi, troisième élément, c'est que il fallait, pour pouvoir vivre dans une crise sanitaire, il fallait retourner ou se recentrer sur l'essentiel et sur l'important qui est la famille. Donc, et du coup, comme vous le connaissez très bien, la femme africaine, c'est le noyau dur et c'est la base de toute famille.
Lors de ce sommet, il y aura une place particulièrement importante pour les jeunes entrepreneurs.
Absolument. Donc nous, dans notre vision et dans notre conception des choses, c'est que on a envie d'agir sur les générations futures. Pour que nous puissions impacter les générations futures, on a besoin de travailler sur le mindset et sur la façon de voir des femmes et des jeunes filles. Et aussi, on a besoin d'avoir avec nous des alliés, d'avoir avec nous des personnes qui vont défendre notre cause et qui vont agir avec nous. Donc, et les jeunes entrepreneurs, les jeunes travailleurs, ça constitue vraiment une niche qui va être accompagnée à travers notre sommet, à travers des workshops, à travers des ateliers qui vont être animés par des chefs d'entreprise, femmes et hommes, bien sûr. Cette jeunesse, elle constitue en quelque sorte les générations futures. Et en étant présent dans un tel événement, ils seront en quelque sorte impactés, sensibilisés et surtout ils vont voir l'importance de l'implication et surtout de l'inclusion et voilà de l'autonomisation de la femme et comment ça peut vraiment donner avantage à l'économie et surtout aussi à l'entreprise. Donc c'est dans cette démarche de préparation des générations futures qu'on a voulu intégrer la composante jeunesse.
L'évolution du rôle des femmes dans les entreprises notamment, comment l'évaluez-vous aujourd'hui?
Je peux partager avec vous le cas Maroc. Dernièrement, on a vu la nomination de 6 femmes marocaines en tant que ministres dans l'actuel gouvernement. Je peux dire que c'est une très belle réalisation. Ça prouve que le gouvernement, il a une vision. Il veut accompagner cette dynamique d'inclusion des femmes, de diversité. Tout ça, ça rejoint en quelque sorte les directives de Sa Majesté le Roi, qui a depuis 2010, il a travaillé sur un certain nombre de lois, de procédures, de directives pour qu'il y ait plus d'implication et d'engagement de la femme dans la vie économique. Donc, et ça ne peut que servir à développer et à améliorer la réalité de la femme marocaine et la jeune fille marocaine. Dans cette énergie, on a voulu créer cette dynamique à travers l'organisation de notre événement dans la ville de Dakhla, qui est la porte d'Afrique, et créer un hub, créer des ponts pour permettre le partage et l'inspiration et la réflexion autour de sujets qui vont permettre en quelque sorte de repenser les modèles économiques, de repenser les modèles de gouvernance et surtout créer des opportunités de business, créer des plateformes de networking.
L'élection de femmes à la tête de grandes villes marocaines, c'est aussi un signal important?
Bien sûr, nous avons actuellement 3 maires pour la ville de Casablanca, de Marrakech et de Rabat. C'est un signal fort. Une ville qui va être gouvernée par une femme, je peux dire que on va être en face d'une très bonne gestion, une très bonne gouvernance, parce que déjà dans la structure de la femme psychologique et aussi physique, nous avons une capacité à mieux gérer plusieurs choses à la fois. Donc je suis sûre que nous aurons, inchallah, de très belles réalisations et ces 3 villes, ils vont être gérées et gouvernées de la meilleure façon.
La fondatrice du Global Women Summit, Anan Ait Aïssa. C'était dimanche dernier au Maroc. Plusieurs centaines de manifestants opposés au pass vaccinal anti-Covid-19 ont manifesté dans des grandes villes du pays. Des manifestations après des appels lancés sur les réseaux sociaux. Le Maroc a lancé le pass vaccinal le 21 octobre dernier. Tous les lieux clos, dont les hôtels, les restaurants, les cafés, les commerces, les salles de sport et les hammams, sont désormais soumis à l'obligation du pass. Il est aussi exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques, publics et privés, tout comme pour quitter le royaume ou pour se déplacer entre les préfectures et les provinces. Le prix Goncourt 2021 est décerné à Mohamed Bougarsar pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes » aux éditions Philippe Ray. Les jurés du prix Renaudot ont eux aussi fait connaître leur choix. Le prix revient à Amélie Nothomb pour « Premier sang » aux éditions Albin Michel. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain. Il proposera aux jeunes gens de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, cela en contrepartie de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Le regard sur cette mesure de la vice-présidente du syndicat étudiant UNEF, Iman Welhadj.
Nous, le regard qu'on porte sur du coup, cette garantie jeune, enfin, le contrat d'engagement que le gouvernement nous propose, est assez critique. Pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on se retrouve du coup avec énormément de jeunes qui sont exclus de cette aide. Donc, ça concernera que les jeunes du coup sans emploi ni formation, ce qui est bien, parce que par rapport du coup au contrat qui existait auparavant, il y a plus de jeunes qui sont inclus là-dedans. Par contre, il y a 2 points négatifs, je pense, qui sont importants à mettre en lumière. C'est à la fois le fait que c'est 500 euros. Pendant à peu près 1 an, on n'est même pas vraiment sûr du nombre de mois du coup le contrat sera disponible, ou c'est que 500 euros. Donc 500 euros pour vivre, c'est très compliqué. Ça ne permet à personne, nulle part en France, de pouvoir s'en sortir financièrement et pouvoir essayer de sortir de la précarité, parce que je pense que l'objectif aussi du gouvernement là-dedans, c'était de donner du coup une possibilité à des jeunes de pouvoir sortir de la précarité. Sauf que aujourd'hui, on va juste les enfoncer dans cette précarité-là. On ne peut pas ajouter des jeunes dans le droit commun et ne pas les ajouter en fait au RSA. Parce qu'aujourd'hui, ce contrat-là, il est à destination de personnes qui auraient pu toucher le RSA. Et en fait, on est toujours face à un gouvernement qui infantilise sa jeunesse et qui, du coup, ne souhaite pas du coup leur permettre d'avoir accès au RSA. De l'autre côté, ben, on a une problématique qui est que ben, ça touche ben, finalement très peu de jeunes, donc que du coup ben, ceux qui sont nus en emploi ni en formation, et du coup ben, on a oublié toute une partie de la jeunesse qui est aussi tout autant précaire, qui est ben, du coup les étudiants, et où ben, on attend énormément de choses de la part du gouvernement depuis un certain nombre d'années maintenant, et où on a eu ben, aucune réponse.
Sachant que l'objectif du gouvernement, un objectif formulé ces derniers mois, est d'encourager la formation, cette contrepartie à location contre formation, ce n'est pas un élément qui vous satisfait?
Bah, c'est pas un élément qui nous satisfait dans la mesure où c'est pas suffisant. Aujourd'hui, enfin, on disait 500 euros par mois, c'est pas suffisant pour vivre. Et ça va pas permettre du coup aux jeunes qui souhaitent sortir de la précarité de le faire réellement et pouvoir bah, du coup entreprendre des études. Pour les gens qui vont essayer de trouver une formation, bah, en fait, ça coûte de l'argent de faire des études. Donc 500 euros juste le moment où on cherche des études et puis après derrière n'avoir aucune garantie de protection sociale de la part du coup du gouvernement, ça c'est problématique aussi, parce que derrière ça pose toutes les questions en fait de précarité financière au moment de la jeunesse, et ça peu importe le statut qu'on a.
Vous estimez que le gouvernement ne tient pas compte des difficultés financières aujourd'hui des étudiants, pas suffisamment compte en tous les cas?
Pas suffisamment compte, parce que déjà les étudiants sont exclus de ce dispositif. Et même sans ça, nous, à l'INEF, ce qu'on demande, c'est pour que pour les jeunes qui sont mis en emploi ni en formation, qu'ils puissent du coup intégrer le droit commun et de pouvoir avoir accès au RSA. Et pour les jeunes qui sont en formation et qui font des études, c'est de pouvoir avoir une réforme des bourses qui soit ambitieuse et qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir financer ses études sans avoir à trop galérer à la fin du mois et sans avoir à se salarier, parce que c'est une des premières causes d'échec chez les étudiants.
Au cours de cette campagne électorale, vous entendez interpeller les différents candidats sur ces questions, et sur quelles questions justement en particulier?
Bah nous, on interpelle l'ensemble des personnes qui sont dans la capacité de faire des choses tout au long de l'année, et ça même en dehors des campagnes présidentielles. Par contre, oui, on compte du coup aussi interpeller sur la question de la précarité, vu que ça fait quand même plusieurs mois maintenant, et même avant du coup la crise du Covid, qu'on interpelle sur la question de précarité des jeunes, qui ne fait que s'accroître. Qui bah, du coup a augmenté pour les étudiants de quasiment 11% depuis le début du quinquennat de Macron, et où derrière bah, aucune réforme structurelle pour aider les jeunes n'a été mise en place. Et aujourd'hui, bah, le contrat engagement jeune montre bien ça, c'est qu'au sein du coup, on ne veut pas investir concrètement et réellement dans la jeunesse, et c'est pour ça aussi que du coup on ferme l'accès du coup RSA au moins de 25 ans, parce que ça coûterait plus cher que de mettre une garantie.
La vice-présidente du syndicat étudiant UNEF, Iman Welhadj. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Frédéric Descrozaille, député La République En Marche du Val-de-Marne. Sur la question de l'emploi, Loïc Barrière lui a demandé pourquoi dans le secteur de la restauration, il y avait toujours des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Frédéric Descrozaille.
Il est certain que les salaires doivent augmenter dans la restauration, vous l'avez dit, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'hygiène et sécurité probablement également en entreprise, dans la santé, c'est absolument certain aussi. Il y a beaucoup de métiers qui très longtemps ont été sous-valorisés et qui ont besoin d'être survalorisés, ce qui s'accompagnerait d'un petit peu d'inflation. Je crois typiquement que dans l'alimentaire, l'alimentation a vocation à coûter un petit peu plus cher, je dis bien un petit peu plus cher, pour mieux payer l'ensemble des salaires et d'ailleurs dégager des marges plus significatives, parce que l'alimentation est un secteur qui écrase les marges, les prix et les salaires depuis des décennies. Mais pas seulement. Sur la restauration, je peux vous dire que beaucoup de restaurateurs, les premiers d'entre eux qui vont être inventifs et trouver des solutions d'organisation pour offrir des conditions de travail qui vont rompre avec ce que sont les habitudes, c'est-à-dire avec la fameuse pause dans l'après-midi, et sur le coup de feu, c'est à midi et le soir, et puis vous finissez tard le soir, et vous avez une pause, dont en général, vous ne faites pas grand-chose dans votre vie, en milieu d'après-midi, entre les deux coups de feu. Les premiers qui vont s'organiser de manière à proposer autre chose, et un aménagement du temps qui va induire une bien plus grande qualité de vie, je pense qu'ils vont cartonner en termes d'embauche.
Frédéric Descrozaille, député La République En Marche du Val-de-Marne, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.